Mourir de faim, avoir la dalle, manger comme un cochon ou avoir les crocs, les expressions populaires en rapport avec la faim ne manquent pas. Cette variété des mots montre à quel point d'ailleurs la pulsion de faim a un impact très important sur nos vies et sur notre expérience alimentaire. Cet après-midi, dans le dossier de la tête au carré, on s'intéresse aux mécanismes physiologiques en jeu dans la faim. Je vous présente mes invités dans un instant. Cette émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Les antibiotiques donnés aux ruminants pourraient-ils avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre? Question posée aujourd'hui à la une de la science. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu. Une étude originale qui s'est intéressée aux quantités de méthane dégagées par les bouses de vaches qui augmenteraient de 80% quand elles sont sous antibiotiques. Explication dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les mécanismes de la faim, donc, dans le dossier de la tête au carré cet après-midi avec vous, Marie Thirion, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin et pédiatre et puis nous sommes également en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon avec vous, Benoît Châle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste du comportement. Marie Thirion, est-ce que nous avons un réel besoin physiologique de manger, allez, en moyenne 3 fois par jour, ou est-ce que ce rituel est quelque chose de totalement culturel?
On n'a pas de besoin énergétique de manger 3 fois par jour. Par contre, culturellement, nous sommes programmés, enfin pour la plupart d'entre nous, à manger sur ce rythme-là. Et si on essaye de changer de rythme, ce fameux crocodile que vous avez nommé tout à l'heure, mais que j'expliquerai quand même un peu mieux, va lancer des signaux 3 fois par jour.
Oui.
Et si au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous ne mangez plus que 2 fois, ou au contraire vous mangez 6 fois, il lancera des signaux 2 fois ou 6 fois.
Donc il s'adapte bien ce crocodile finalement.
Il peut s'adapter.
Il prend son temps,
il est assez lourdeau, mais il finit par s'adapter.
Benoît Châle, est-ce que la faim taraude les bébés dès qu'ils sortent du ventre de leur mère?
Alors probablement que le crocodile est tout petit dans le cerveau du nouveau-né et devient un vrai gros crocodile d'Australie chez l'adulte. Et effectivement, il n'est pas aussi mordant au début de la vie et il est très influencé par ce qu'il reçoit de son environnement et en particulier de ce que la mère lui apporte.
Mais on a le sentiment que le bébé réclame à manger toute la journée quasiment, hein.
Est-ce qu'il réclame à manger ou est-ce qu'il réclame le confort des bras, bras de la personne qui prend soin de lui, qui souvent est associée au fait de manger?
Oui.
C'est une question qu'on pourra se poser.
Bon, on va donc nuancer effectivement les choses ensemble dans quelques minutes. Pourquoi avons-nous faim? Question posée dans la tête au carré avec vos messages dès maintenant sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Donner des antibiotiques aux ruminants pourrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Découverte étonnante à la une de la science.
Elle mange presque toute la journée. Et quand elle ne mange pas, notre amie la vache a un défaut. Elle rote 90 fois par jour. Difficile à digérer les fibres qu'elle avale, alors elle mâche. Et le tout fermente en fabriquant un gaz, le méthane.
Et ce problème des émissions de méthane par les ruminants est un problème justement pris très au sérieux. En plus de leurs centaines d'euros quotidiens, les bouses en décomposition participent également à ces dégagements de gaz à effet de serre. Une équipe internationale vient de montrer que l'ajout d'antibiotiques dans la nourriture pourrait augmenter ces émissions. Bonjour Michel Doreau.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes directeur de recherche à l'INRA et puis avec nous en studio Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On vous retrouve comme tous les lundis en partenariat avec Reporter.net. Hervé, les gaz à effet de serre donc émis par les élevages de ruminants, c'est un vrai problème et cette nouvelle donnée concernant les antibiotiques est très intéressante à ce titre.
Oui, tout à fait. Elle apporte un nouveau paramètre dans une équation complexe. Comme il a été rappelé, les ruminants, surtout les bovins, ruminent, ils font ce qu'on appelle la fermentation entérique, ça produit des flatulences, il rote, et ça produit du gaz méthane, le CH4, qui est un gaz qui a un effet de serre 28 fois supérieur au CO2.
Ouais.
Ce qui fait que toutes ces vaches, tous ces bovins produisent au total environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est une équation complexe, rentre en compte les modes d'élevage, etc., et aussi les antibiotiques, comme l'apporte cette nouvelle étude vraiment intéressante.
Axel.
Alors Michel Doreau, comment ces antibiotiques donnés sur quelques jours dans l'expérience, ont-ils modifié la composition des bouses de vache?
Oui, en fait, dans l'essai, il n'est pas très bien précisé comment sont apportés ces antibiotiques. On suppose qu'ils sont apportés par la bouche, et dans ce cas, ils commencent à passer dans la panse. La panse, c'est ce qu'on appelle aussi le rumen, où se trouve un grand réservoir de fermentation des aliments. Donc il se peut qu'il y ait un premier effet au niveau de la panse avant d'avoir un effet au niveau de la bouse proprement dite.
Quels sont les résultats trouvés par ces chercheurs concernant la bouse particulièrement ?
Oui, ils ont trouvé une légère augmentation de méthane lorsque les animaux recevaient des antibiotiques. Mais en fait, l'importance quantitative est très faible, puisque déjà le méthane, c'est un tiers des gaz à effet de serre produits par les ruminants, que 80% de ce méthane est produit dans la panse et seulement 20% au niveau des bouses, et que, comme ils ont fait des études sur les animaux au pâturage, les bouses donnent très très peu de méthane. Donc en fait, c'est une étude originale et très intéressante, mais qui ne va pas révolutionner les moyens de réduire le méthane méthane produit par les ruminants.
Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, les éleveurs ajoutent des antibiotiques à la nourriture donnée aux vaches. Est-ce que quand même cette étude, dans ces circonstances-là, pourrait amener à des réflexions particulières ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est dommage, c'est que les antibiotiques qui ont été utilisés dans cette étude ne sont pas ceux qui sont donnés aux États-Unis ou en Asie comme facteurs de croissance. On peut quand même penser que l'effet n'est pas très éloigné. Cela voudrait dire, comme ces antibiotiques facteurs de croissance sont donnés aux États-Unis pour augmenter la productivité des animaux, en même temps ils baissent le méthane produit au niveau de la panse, donc ça ferait une compensation par la petite augmentation de méthane observée au niveau des bouses.
En Europe, l'ajout d'antibiotiques dans la nourriture est interdit, hein, je crois, il faut le préciser. Quelles sont les solutions qui sont envisagées pour diminuer les quantités de méthane produits par les bêtes, Michel Doro ?
Eh bien, nous travaillons depuis une dizaine d'années sur ce sujet, et beaucoup d'équipes internationales aussi. Et là, il y a actuellement un consensus sur l'intérêt d'utiliser des graines oléagineuses en raison de leur richesse en lipides. Nous avons beaucoup travaillé sur la graine de lin. Maintenant, nous étudions aussi la graine de colza qui pourrait réduire le méthane. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a des molécules de synthèse qui posent toujours le problème de leur acceptabilité future par le consommateur, même si il a été montré qu'elle n'avait aucun effet sur la santé de l'animal et qu'il n'y avait pas de résidus. On a également fait des études montrant qu'un additif à base de nitrate de calcium pouvait être efficace, mais même s'il est efficace, le problème de la mise en marché d'un aliment de ce type-là reste posé.
Est-ce que, Michel Doro, il n'y a pas aussi le rôle du mode d'élevage entre des élevages agro-industriels et des élevages plus herbagés, plus paysans ?
Pour ce qui est très très industriel, en fait, les productions de méthane sont faibles. C'est un fait à souligner, mais nous ne le recommandons pas, bien sûr, parce que des quantités très importantes de céréales à des ruminants, ce n'est pas, sur un plan éthique, c'est difficilement défendable.
Pourquoi il y aurait moins de méthane dans les élevages industriels par rapport à des élevages plus traditionnels, alors ?
Eh bien, dans les élevages de type, ce qu'on appelle les feedlots américains, où les animaux sont bourrés de céréales, la très grande quantité de céréales réduit les émissions de méthane dans la panse en modifiant les fermentations qui s'y déroulent.
Oui, mais en même temps, le mode d'élevage, c'est plus complexe, parce qu'il y a aussi le fait que les prairies naturelles, les haies, stockent beaucoup de carbone, donc le bilan est différent, non ?
Tout à fait, c'est pour ça que ce qu'on propose en France, c'est un développement de l'élevage herbager, qui, où justement, bien que les quantités de méthane émises par les bovins ne soient pas plus faibles, le carbone qui correspond à du CO2, du gaz carbonique, l'un des gaz à effet de serre le plus important, est séquestré par les sols des prairies naturelles. Et là, la compensation peut être importante et c'est une solution sur laquelle nous travaillons.
Michel Doro, pour revenir sur les bouses, est-ce que la solution d'utiliser des méthaniseurs, ces machines fabriquées pour récupérer les émissions de méthane, est intéressante ?
Alors c'est une solution intéressante, efficace. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est un effet pervers qui a été observé en Allemagne, c'est que comme quand on met des bouses dans un fermenteur, il n'y a pas beaucoup de matière à fermenter, et si on met une céréale complète dans le fermenteur, il y a beaucoup plus à fermenter, beaucoup plus de production de méthane. Alors si le méthane produit est acheté très cher au propriétaire du bioréacteur, il a intérêt à mettre une céréale entière plutôt que de mettre des bouses. Et ça, en Allemagne, cela malheureusement se pratique. Il faudrait certainement trouver des moyens d'éviter de donner directement d'utiliser directement les céréales pour faire du méthane, plutôt de les faire consommer par l'homme ou par des animaux comme les porcs et les volailles.
Hervé, est-ce que vous avez le sentiment que les éleveurs aujourd'hui sont concernés par les problèmes de réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires pour participer justement à la baisse des émissions?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est devenu l'année dernière, avant la COP21, une vraie préoccupation. On avait beaucoup travaillé à Reporter sur le thème agriculture et climat. Et c'est vraiment quelque chose qui est maintenant rentré dans l'analyse des processus de production. Et les paysans se posent la question, même s'ils n'ont pas toujours la solution.
Voilà, et article qu'on retrouve évidemment sur le site reporter.net autour du méthane des bovins. Merci beaucoup.
Merci Mathieu.
Merci Michel Doureau pour vos explications. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une boule de glace sans vie, eh bien c'est l'apparence qu'aurait dû avoir la Terre il y a 4 milliards d'années au moment de sa formation. Selon une étude publiée dans Nature Géosciences, au début justement de la formation de notre planète, le Soleil brillait avec moins d'intensité qu'aujourd'hui, ne fournissant à la Terre que 70% de l'énergie qu'elle reçoit actuellement. Cependant, les tempêtes solaires de l'époque, bien plus fortes et fréquentes que celles qu'on observe aujourd'hui, auraient généré un effet de serre suffisant pour permettre à l'eau liquide de ne pas geler. Ces particules auraient aussi permis la formation de molécules complexes comme des acides aminés ou même de l'ADN ou de l'ARN propices à la vie. Nombreuses sont les populations en voie d'extinction dans nos océans, mais pour certaines espèces, c'est le contraire. Selon une étude de la revue Current Biology, certains céphalopodes, comme les poulpes, les seiches ou les calmars, sont en nette augmentation depuis 60 ans, malgré un réchauffement et une acidification des océans. Les scientifiques estiment que réchauffement et surpêche associées pourraient anéantir les différents prédateurs des céphalopodes, tout en épargnant justement ces derniers bien plus adaptatifs. Leur augmentation pourrait poser problème sur les espèces qui constituent leur proie, comme des poissons et des crustacés, et plus largement sur la chaîne alimentaire marine. Et puis on termine avec une vidéo étonnante d'une veillée funèbre chez un groupe de chimpanzés. Le deuil, douleur bien connue de l'homme, ferait aussi partie intégrante de la culture de ces primates. Comme les gorilles, les éléphants ou les dauphins, les chimpanzés expriment différentes émotions face à la mort d'un de leurs membres. Des primatologues de l'Institut Max Planck ont pu filmer ce comportement en Zambie. Les scientifiques estiment que ces observations font écho à notre propre sociabilité liée à notre histoire évolutive. Vous pouvez retrouver l'émouvante vidéo de cette veillée funèbre sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, les mécanismes de la faim, c'est dans un instant.
Sleep. Dust is everywhere.
Crooked Courts avec Dust.
La tête carrée sur France Inter.
Les mécanismes de la faim et de la satiété aujourd'hui donc dans notre dossier. Mes invités Marie Thirion en studio avec nous à Paris et Benoît Chaland en duplex de Dijon. Marie Thirion, vous êtes médecin, pédiatre et auteur de ce livre « Pourquoi j'ai faim » publié chez Albin Michel. Et Benoît Chaland, vous êtes biologiste du comportement au CNRS, spécialiste des fonctions de l'olfaction chez les nouveau-nés et membre du Centre des sciences du goût de Dijon. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Vous auriez bien aimé, Marie Thirion, avoir ce titre Biographie de la faim pour ce livre.
Je ne sais pas si j'aurais bien aimé, mais je l'ai trouvé splendide.
Oui, il était pris évidemment par Amélie Nothomb.
Quand j'ai lu ce livre d'Amélie Nothomb, je me suis dit, mais quelle merveille de titre.
Oui. Vous avez été très inspirée par ce qu'elle a écrit ?
Disons que ça a déclenché beaucoup de questions en moi, parce qu'elle décrit la faim comme un écrivain peut la décrire, et comme quelqu'un qui a souffert de difficultés alimentaires dans sa vie, dont les parents ont souffert, elle parle très bien de son père, comme d'un martyr alimentaire. Et elle en parle tellement bien que je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps ? C'est bien de le décrire comme ça, mais dans le corps, c'est quoi ? Et qu'est-ce que tu sais, toi, de tout ça ? Et puis, je me suis rendu compte que je ne savais rien et qu'il était temps d'aller chercher un petit peu.
Oui, parce que pas beaucoup de chercheurs s'y intéressaient non plus, hein.
Non, c'est un sujet... Vous savez, plus les fonctions sont indispensables à la vie, et moins on les étudie. Mmh. On pourrait dire ça comme ça. Je parle des fonctions classiques, des fonctions de notre quotidien. Je ne parle pas, bien sûr, de la pathologie. Finalement, il y a très peu de choses qui ont été étudiées avant 1950, si on parle de la physiologie des choses simples.
Oui.
Le sommeil autour de 1950, la sexualité 1970 et la faim depuis les années 2000.
Oui. Benoît Chaland, c'est étonnant quand même, hein, ces recherches très récentes par rapport effectivement à ces autres thèmes de recherche. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on s'est réveillé justement pour engager des travaux dans ce domaine de la faim ?
Peut-être un souci plus marqué vers des problématiques de qualité de vie et de bien-être des personnes qui font que des thèmes en apparence banals sont développés de façon un peu plus générale, plus approfondie.
L'épidémie d'obésité aussi a certainement joué un rôle en tout cas important dans le démarrage de ces recherches, Marie Thirion ?
Oui, certainement, comme pour le sommeil, l'épidémie de consommation des somnifères, la consommation tout à fait excessive de médicaments par la population. Tout ça, il y avait des raisons de se mettre à chercher.
Oui. La faim, ça c'est un mot extrêmement fréquent hein, dans le langage courant.
Oh ben, c'est 50 fois par jour.
Voilà, vous répertoriez quelques-unes des expressions, mais... Ça dit quelque chose de l'importance, au fond, hein, de ce mécanisme aussi.
Oui, et les expressions disent vraiment quelque chose de la peur de manquer, de la peur. C'est « je meurs de faim », vous l'avez dit tout à l'heure, « je crève de faim », « la dalle, j'ai la dalle
».
C'est pas n'importe quelle dalle, hein. C'est la dalle du cimetière qui est pas très loin, celle-là.
Ouais.
Et donc, quand on évoque qu'on irait bien manger, et simplement, dans notre corps, normalement, le message est simplement qu'il est temps d'aller à manger, parce que d'habitude, nous avons cette habitude-là. Eh bien, n'empêche que même comme ça, lorsqu'on est bien nourri, surnourri, régulièrement nourri, tout ce qu'on voudra, on continue à utiliser des expressions qui sont des expressions paniquantes.
Ouais, la faim et l'appétit, c'est pas la même chose, hein. Il faut distinguer les deux notions.
Alors, la faim, si on en parle, il faut en parler en termes de corps, en termes d'hormones, en termes de neuromédiateurs, en termes de fonctionnement biologique du corps. L'appétit, c'est quelque chose de tout à fait personnel, tout à fait individuel, qui est le conditionnement créé pendant les premières années, puis après tout au long de la vie, sur la façon dont nous avons petit à petit pris des habitudes de manger de telle ou telle façon. Donc en quantité, en volume, en heure, dans tel ou tel contexte, dans tel ou tel groupe humain, et tout ça fait l'appétit.
Oui.
Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait personnel et deux personnes n'ont pas le même appétit.
Et ça commence très tôt, Benoît Chaland, alors, justement, dans la vie.
Alors effectivement, l'appétit pour les stimulations associées, pour les aliments et pour les stimulations associées aux aliments, ça commence extrêmement tôt. Puisque le fœtus, déjà dans le ventre de sa mère, manifeste des rythmes d'activité orale qui ne sont pas distribués au hasard et qui sont d'une certaine façon calqués sur les prises alimentaires maternelles. Donc déjà, à ce stade, il y a déjà une ébauche d'un rythme de l'appétit. Et à ce moment-là, l'enfant inhale et ingurgite du liquide amniotique de façon accrue. Et donc probablement stimule ses systèmes sensoriels et son cerveau.
Et ça, synchronisé sur sa mère.
Oui, c'est relativement synchronisé sur sa mère. Les variations de glycémie maternelle induisent chez le fœtus des variations de consommation par le fœtus de liquide amniotique, mais aussi d'inhalation et d'exhalation, donc de passage par le nez du liquide amniotique.
Oui. Donc ce lien, il est absolument essentiel, évidemment, entre le fœtus, le nouveau-né, le bébé et sa mère.
Absolument. Ce qui fait que le bébé, une fois né, dès qu'il sera réveillé, il va avoir une priorité absolue, c'est de la retrouver. Et donc, à chaque éveil, il va mettre en place un processus qui est son équipement à lui, qui est un processus assez simple finalement, qui est fait de trois choses. Je me réveille, je cherche le lien avec cette mère-là.
Oui.
Alors bien sûr, ça peut ne pas être la mère biologique, mais je cherche le lien avec l'adulte qui aura ce rôle maternant et je mets en place une appétence orale. On appelle ça souvent, ils ont besoin de sucer. Mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Dès qu'ils sont réveillés, dès qu'ils se rentrent en lien, ils ont besoin de se remplir de l'autre. Ils ont besoin que la bouche soit pleine, ils ont besoin, bien sûr, que quelque chose en coule le plus souvent possible, mais ils vont se remplir de l'autre parce qu'ils sont réveillés et qu'ils ont trouvé l'autre.
Donc Benoît Chasles, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Plus que l'aliment, au fond, c'est ce lien avec la mère que le nouveau-né va chercher.
Tout à fait. Il naît déjà avec des attentes et une certaine connaissance de ce qu'il va trouver dans le milieu postnatal et dans les bras de la mère. Mmh. Et il cherche à la fois le lien, les éléments sensoriels du lien avec la mère, qui concernent toutes les modalités des sens, et aussi ce que la mère lui apporte de matière, en particulier de lait.
Alors, Dauphin, sur Twitter, nous envoie ce petit message. Selon le naturopathe que je vais voir, il me dit cette phrase régulièrement, « Si vous n'avez pas de manque à compenser, vous aurez nettement moins d'appétit. » Marie Thirion, justement, on est dans ce domaine aussi des émotions dont on va beaucoup parler avec vous.
Hein. Oui, l'appétit au sens strictement pulsionnel est relativement peu mis en fonctionnement, j'allais dire, dans nos sociétés. La recherche simple d'aliments pour avoir juste la dose nutritionnelle, c'est pas ça.
Mmh.
En fait, on sait que les stimulations sensorielles, d'abord, et plus elles sont riches, plus c'est vrai, et les émotions perturbent ces systèmes. Alors, ça peut les perturber en positif, c'est-à-dire je mange comme quatre, j'ai peur ou je suis heureux, parce que ça peut être dans les deux sens, hein, mmh. Et on se met à manger comme quatre. Ou alors, ça peut être dans le sens négatif, je ne mange plus parce que ben, je vis d'amour et d'eau fraîche, ou parce que je suis tellement mal que je peux plus rien avaler.
Mmh.
Vous voyez que la même émotion peut donner des comportements tout à fait opposés.
Oui.
Mais par contre, quand on est en manque de quoi que ce soit, et même quelque chose qu'on ne sait pas, ou qu'on ne repère pas. Et j'aurais presque envie de dire, là encore, il y a toujours l'autre derrière, c'est-à-dire l'autre étant la source d'un plaisir de la rencontre. Effectivement, on mange.
Oui, et on mange ensemble. Hein.
Oui.
Ça aussi, c'est très important.
Oui, oui.
Hein. On mange pas seul, en général. Benoît Chasles, sur le rôle des émotions dans ce mécanisme.
Les émotions sont bien sûr des régulateurs extrêmement puissants de l'appétit. À la fois les émotions provoquées par le contact avec l'aliment lui-même. Chaque aliment évoque des souvenirs ou évoque un plaisir actuel, immédiat, mais aussi l'émotion de la situation sociale associée à la prise alimentaire, la convivialité qui stimule fortement l'appétit. Mmh. On mange plus lorsqu'on est en groupe que lorsqu'on est seul.
Ouais, Ligue nous dit ceci sur la page Facebook de l'émission. Ma fille de 4 ans avec un léger rebond adipeux termine systématiquement ses repas en disant « J'ai faim, enjeu psycho-affectif, comment faire pour arrêter ce chantage ?» Marie Thirion, là je m'adresse à la pédiatre.
Est-ce qu'on peut dire chantage? Je ne crois pas. Moi j'aurais envie de dire, cet enfant de 4 ans qui a bien mangé, puisqu'a priori les apports sont non seulement suffisants, mais peut-être même un peu excessifs, ne trouve pas soit dans l'aliment, soit dans la façon dont elle peut le consommer, quelque chose qui lui apporte une satisfaction suffisante. Alors, est-ce qu'elle se sent brimée? Est-ce que elle, je sais pas, est-ce qu'elle avait pris l'habitude d'un volume supérieur dans l'estomac et qu'elle ne le retrouve pas? Donc, c'est la densité de l'aliment ou le poids de l'aliment? Est-ce que c'est dans la relation avec les parents aussi? Je te fais marcher, je vais te faire croire que... Parce qu'une bonne mère, ça nourrit bien et ça n'arrête pas de nourrir. Donc, je vais te tester chaque fois. Il peut y avoir plein de choses, hein.
Sphinx et la femme à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Pourquoi j'ai faim, ce livre sort chez Albin Michel. Marie Thérion, vous en êtes l'auteur. Et puis on en discute avec Benoît Châle, biologiste du comportement. Et pour illustrer notre sujet, un extrait d'un film, La guerre est déclarée.
Bon, il est en pleine forme, il a du caractère, il est très développé d'un point de vue moteur, ça roule. Vous l'allaitez ? Quand ?
Ben quand il a faim.
C'est-à-dire ?
Ben quand il demande.
Et il demande combien de fois par jour, à peu près ?
Je sais pas, une dizaine de fois ?
Non, Juliette, soyons honnêtes. Enfin, tu lui donnes à chaque fois qu'il pleure.
Bon. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. Vous lui donnez le sein tout le temps, sans rythme. En fait, il n'en peut plus de manger. Il est gavé, écœuré. Donc, il pleure. Et vous, vous pensez qu'il a faim. Alors, vous lui redonnez le sein. Imaginez que l'on vous gave comme une oie. Ce sera insupportable.
Marie Thirion, une réaction à cet extrait. Est-ce que c'est un dialogue que vous avez pu avoir avec certaines familles, certaines mamans en particulier ou pas?
Oui, bien sûr. Mais moi, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas une réaction, il y en a deux. D'abord, le nombre de tétés par jour, là il s'agit du sein,
oui. Hein,
le nombre de tétés par jour et les chiffres que l'on donne traditionnellement chez nous, c'est-à-dire entre 6 et 10 fois, et déjà 10, les pédiatres tordent un peu le nez, c'est culturellement construit. Mmh. Il y a des quantités de pays, des quantités de régions de la planète où les bébés tètent effectivement 15, 20, 30, 40 fois, personne ne compte. La mère le porte, quand il chouine un peu, quand il couine un peu, elle le bascule vers son sein, il tète. Disons, il prend le sein, il prend, peut-être bien qu'il ne prend pas du lait chaque fois, mais il prend le sein, il se rassure, il se tait, tout va très bien, et c'est culturellement admis. Donc ça, c'est ma première réaction. La deuxième réaction, sur ce qu'on vient d'entendre, elle est très importante aussi, c'est que je crois que les bébés sont incapables, absolument incapables, de faire la différence, je parle des tout-petits,
hein,
entre le besoin de lait, le besoin d'aliment, le besoin de l'autre, et un autre type d'inconfort. Quand ils ont mal au ventre, quand ils se tortillent avec ce qu'on appelle les coliques, effectivement, ils ont des appels de faim multiples. C'est très connu chez les bébés dans ce qu'on appelle le pleur du soir. Ils réclament, ils demandent à manger, ils le recrachent, ils vomissent, ils recommencent, ils demandent. Les bébés ne font pas la différence et on n'est pas très sûr qu'ils aient les moyens d'exprimer, je crois qu'on n'est pas sûr du tout, qu'ils aient les moyens d'exprimer, c'est ça que je veux en ce moment, c'est de l'aliment ou c'est de la rencontre. Ou alors j'ai un autre inconfort. Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que la mère commence à décoder ça.
Oui, Benoît Chal, une réaction aussi pour compléter les propos de Marie Thirion.
Ben effectivement, je voudrais faire allusion à une étude déjà ancienne des années 80 qui a été réalisée chez les Bushmen d'Afrique du Sud et qui mesurait la fréquence de prise alimentaire des nouveau-nés qui, dans ces populations, sont portés sur le corps de la mère en permanence. Eh bien, il montrait que la prise moyenne, la durée moyenne entre deux prises de lait était de 20 minutes. Ce qui révèle que les enfants sont, comme disait Marie Thirion, en permanence, ont accès au sein et décident eux-mêmes, finalement, plus ou moins de quand ils vont avoir accès au sein.
Oui.
Et à nouveau, la culture l'autorise et l'encourage. C'est la norme.
Et là, on est où alors? On est dans le domaine du besoin ou du plaisir pour le bébé?
Alors là aussi, comme dit Marie Thirion, c'est indissociable. Le besoin et le plaisir, la cause et la conséquence, je pense que l'enfant a probablement dans les premières semaines, du mal à la dissocier. Mmh. Et les apports de stimulation, de contact, d'être contenu, d'être porté et les stimulations proprement alimentaires ne sont probablement pas bien dissociées à ce moment-là.
Marie Thirion.
Tout est emboîté.
Moi, je crois que les bébés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont un intense besoin de satisfaction orale. Ça ne veut pas dire gastrique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin que ça rentre à tous les coups. Mais ils ont besoin de faire bouger leur langue, de faire bouger leur système de déglutition, de faire bouger leur maxillaire. Ils ont besoin que tout ça s'active. Parce que chez l'enfant, le petit enfant, le nourrisson, c'est la source numéro un de plaisir.
Alexandre.
Si on reprend les phases pulsionnelles de Freud, c'est la première, la phase orale.
Alexandra nous dit ceci, les envies de certains aliments sont-elles fonction de nos gènes ou sont-elles le fruit de nos habitudes prises à la naissance?
J'aimerais mieux que ce soit Benoît Chal qui réponde. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas génétique, mais je crois qu'on ne le sait pas.
Benoît Chal, hein.
En fait, on ne le sait pas parce que ces orientations préférentielles commencent tellement tôt que c'est dans une phase difficilement observable dans la période fœtale et il est difficile réellement de dire ce qui la part du génétique et la part de l'acquis.
Ouais.
Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'acquis est plus facile à démontrer. Et donc, on a beaucoup plus de données sur les apprentissages alimentaires, même les plus précoces. Mmh. Très récemment, toutefois, on a des données un peu différentes du domaine alimentaire, mais qui montrent que le mécanisme est possible, que le fait d'exposer des parents ou des grands-parents de souris à un stress intense en même temps qu'une odeur génère deux générations plus tard une réponse de répulsion par rapport à cette odeur chez les sourisseaux, alors que qui n'ont jamais été exposés à cette odeur. Donc à la première présentation, ils peuvent manifester des réponses d'aversion, bien que cette odeur n'ait jamais été présente dans leur environnement.
Mais dans
donc
une transmission générationnelle,
alors. Il peut aussi y avoir des éléments de transmission entre les générations, tout à fait.
Mais peut-être épigénétique.
Ouais. Alors justement,
probablement épigénétique.
Ouais. Comment on explique l'appétence quand même des bébés? C'est ce que vous expliquez, Marie Thirion, quand même, globalement, majoritairement, pour le sucré, par exemple.
Je ne sais pas l'expliquer. Je crois qu'on le constate. Que sur la planète, partout, tous les bébés préfèrent le sucré et n'aiment ni la mer ni l'acide et font des grimaces plutôt si on leur présente ça.
Ouais.
Et d'où ça vient? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est transmis par des générations et des générations qui ont appris à se méfier des produits amers? Est-ce que je ne sais pas. On constate que c'est comme ça.
Oui. Benoît Chasles, justement, pour revenir sur le besoin et le plaisir, il y a cette publication très récente du CNRS qui montre que, justement, dans le domaine de l'alimentation, il y a cet équilibre fragile entre le besoin et le plaisir, entre deux voies nerveuses. Mais ça a été observé chez la souris, là. Hein, on ne parle pas de l'homme pour l'instant.
Oui, oui.
C'est des résultats intéressants, non?
Ce sont des résultats qui dissocient bien les deux grands phénomènes d'organisation du comportement alimentaire, les besoins internes, et la recherche de plaisir, les besoins métaboliques et la recherche de plaisir.
Mmh.
Et effectivement, lorsqu'on modifie génétiquement les souris de façon à affaiblir les neurones qui détectent les besoins internes, eh bien, on met en place le circuit, la commande par le circuit qui génère du plaisir. Et donc, on montre que ce circuit peut être tout à fait important dans l'organisation du comportement alimentaire, et même plus important que le circuit métabolique.
Oui, ce qui est intéressant aussi pour la compréhension des troubles alimentaires, Marie Thirion.
Oui, je crois que si on réfléchit, si on part de cette étude, on peut se dire que dans notre société à l'heure actuelle, nous sommes tous un peu addictifs au deuxième circuit, au circuit de la récompense, au circuit du plaisir. Très peu d'entre nous fonctionnent de façon, au premier niveau des besoins énergétiques.
Oui.
Nous sommes surstimulés par les aliments. Il y en a partout, il y a des publicités partout, il y a des odeurs partout quand on se promène dans la rue. Et puis, nous sommes aussi dans un système de stress, de déséquilibre, de plein d'autres niveaux qui va dérégler tout ça. Donc, je pense qu'on est tous à la recherche de plaisir à travers l'aliment.
Sylvie nous dit ceci, ma fille née prématurée est alimentée pendant 2 mois par sonde de gavage, aujourd'hui 10 ans, et elle n'éprouve jamais la sensation de faim. Est-ce que vous pensez que cette histoire a un lien?
Est-ce que je pense... C'est très compliqué le problème des prématurés et des premières expériences. C'est vrai que on sait que certaines personnes ne ressentent pas du tout les signaux de faim, n'ont aucune notion de ce qu'ils mangent, et la plupart du temps d'ailleurs mangent beaucoup. On retrouve ça chez des très grands obèses, on le retrouve chez les anciens prématurés. Et il semble que c'est lorsque, dans les premières semaines de vie, les premiers mois de vie, il y a eu dissociation entre l'apport de l'aliment, qui lui était adéquat, et la qualité de la relation, du lien à ce moment-là. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas trouvé le lien humain qui permettait de. Mmh. Ça existe aussi en sens inverse, lorsque le lien humain est très bon, mais que pour une raison ou une autre, le lait ne vient pas, ça arrive dans certains allaitements au sein, et dans certains cas où le bébé le recrache, le revomit. Et c'est tellement pénible d'avoir l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'aliment sans le lien ou le lien sans l'aliment, c'est tellement dur dans ces toutes premières expériences que certaines personnes effacent toute sensation de faim. Et on peut le retrouver comme ça, c'est vrai.
Benoît Chasles, un message de Jocelyn. Entre appétit et faim, qui veut-il mieux écouter? Notre régime alimentaire de 3 repas par jour est-il donc approprié lors d'une activité physique normale? La fringale est-elle alors psychologique ou physiologique?
Je pense que les deux sont liés. L'activité physique, évidemment, modifie les paramètres métaboliques du corps et oriente la demande vers un apport de nutriments, mais aussi vers un apport de nutriments souvent chargés en sucre et en graisse énergétique pour remobiliser une physiologie capable de continuer l'action.
Un témoignage de Sophie, justement, autour du sucre. J'ai remarqué que si je parviens à me priver de tout aliment sucré pendant 2-3 jours, je n'ai plus aucune compulsion alimentaire. Je ne mange que la quantité dont j'ai besoin. Le sucre agit manifestement avec une puissance incroyable sur le cerveau. Marie Thirion ?
Le sucre agit considérablement sur le cerveau. D'ailleurs, la glycémie est directement perçue par le cerveau. Donc, il va dire, il y a telle quantité, il va ressentir directement, ça c'est sûr. Mais je crois que par rapport à la question qu'on vient d'entendre, c'est pas une raison pour se priver totalement de sucre. Le corps en a besoin.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai, bye-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lullaby. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, 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 la.
Le boxeur Simon & Garfunkel à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Marie Thirion, Benoît Châle, nos invités cet après-midi. Et Marie Thirion, pourquoi j'ai faim chez Albin Michel? Revenons, s'il vous plaît, quand même sur ce cerveau crocodile dont on parlait en tout début d'émission. C'est le cerveau profond, inconscient, c'est ça? C'est lui qui pilote, au fond, nos habitudes?
Oui, tout à fait. Le cerveau crocodile, c'est pas un très bon mot, hein, c'est juste pour faire de l'effet. Il ne pilote pas que la faim. Il pilote la température du corps, il pilote les heures et les débits des sécrétions hormonales, il pilote aussi, je sais pas moi, le cycle menstruel chez la femme, il pilote tout en fait. Mais tout ce qui se pilote tout seul, ce sur quoi on n'a pas besoin de penser ou de réfléchir. Et donc, il y a dans ce cerveau le centre les centres de l'appétit et les centres de la satiété. C'est lui qui pilote. Mais il est au fond du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hypothalamus, mais par-dessus, il y a des tas d'autres structures qui peuvent intervenir. Celle des émotions, celle de l'insula qui coordonne tout ça, celle de la conscience, un petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une toute petite partie de l'iceberg, mais il est quand même régulé par d'autres. Alors, la caractéristique, c'est surtout que c'est un organe qui va prendre des habitudes. Le mot n'est pas tout à fait juste, parce qu'habitude, ça évoque conscient. Il va... On dit plutôt, en recherche, on dit habituation. C'est-à-dire qu'il va fonctionner sur la façon dont il a fonctionné les autres fois. Et ça, au long cours, il va s'organiser pour fonctionner de telle ou telle façon.
Mais ce que disait Benoît Chasle tout à l'heure, c'est qu'il est aussi plastique. Hein. C'est-à-dire qu'il s'adapte à Benoît Chasle facilement, et justement, sur de nouvelles habitudes.
Il s'adapte extrêmement facilement et extrêmement précocement, et de façon... relativement stable au cours de la vie. Et donc, ce qui fait qu'on a, comme disait Marie Thirion, des habitudes de comportement alimentaire et de façon de traiter ces aliments digestivement qui sont dépendantes d'apprentissage et d'apprentissage pas forcément voulu, mais d'apprentissage par exposition répétée, etc.
Donc c'est lui qui peut nous inciter à manger trois fois par jour, mais effectivement, si on change cette habitude, on aura faim de façon différente.
C'est lui qui nous incite, mais on peut avoir faim de façon différente au bout de quelques semaines chez l'adulte.
Ça va vite. Mohamed demande ceci. De quelle manière agit la gléline sur cette hormone qui stimule l'appétit sur l'organisme ?
La gréline.
Gréline, pardon.
Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur la gréline, mais je peux vous donner deux grands axes. La gréline, elle est sécrétée dans l'estomac lorsque le cerveau envoie le signal « ça serait bien que tu ailles manger ». Alors, il peut bien l'envoyer uniquement parce que d'habitude, on y va à cette heure-là, hein, soyons bien clairs, ce n'est pas un signal de faim. Donc, il l'envoie et la gréline, comme l'hypersalivation d'ailleurs, qui est aussi l'autre signe de ce signal, la gréline va avoir deux grandes actions. La première, c'est qu'elle va lancer la motricité du tube digestif, en particulier celle de l'estomac. Donc, on va sentir l'estomac qui gargouille, l'estomac qui bouge, parce qu'il commence à gigoter pour attendre les aliments. Et puis, ça va lancer en dessous aussi, puisqu'il va falloir que les aliments progressent le long du tube digestif. Ça, c'est sa première action. La deuxième action, qui est plus complexe, qu'on connaît bien aussi maintenant, c'est qu'elle va agir sur les réserves, en disant, l'aliment va pas tarder à arriver, je suis en train de lancer l'appel.
Donc le stockage.
Donc, voilà, le stockage
des aliments.
Ça serait bien de vous préparer à stocker.
D'accord.
Préparez-vous à stocker. En d'autres termes, si vous vous affamez, si vous laissez monter beaucoup le taux de gréline, eh bien, vous préparez encore plus le stockage. C'est pas une très bonne idée quand vous voulez ne pas grossir.
Oui. Comment ça fonctionne justement entre la faim, l'appétit et la finalité, la satiété précisément, ces mécanismes, Marie Thirion ?
Alors,
qu'est-ce qui se joue là exactement ?
Il y a deux grands mécanismes. Et vraiment, bon, on peut les séparer artificiellement. En pratique, ça se joue dans le même temps.
Oui.
Le premier mécanisme, c'est le cerveau qui dialogue, qui discute avec le tube digestif. C'est-à-dire qu'il va envoyer un signal. Et si tu allais manger maintenant ? Il est temps d'y aller. Alors, un peu pour des besoins énergétiques, beaucoup pour d'autres raisons, comme on vient de le voir, des raisons d'habitude. Et à ce moment-là, il y a les deux signaux que je viens de vous citer, la salivation et la gréline. Dès que l'aliment rentre dans l'estomac, l'estomac va réagir instantanément par un flash, mais vraiment un flash, un éclair, hein, très court, d'une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui, elle aussi, va directement au cerveau. Elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et qui va informer le cerveau, ça y est, ça rentre. Pour l'instant, c'est non sélectif. Et puis après, tout au long du tube digestif, il va y avoir une série de circuits hormonaux qui vont envoyer des messages au cerveau. D'abord, l'aliment rentrant, la glycémie va monter tout de suite. Et si la glycémie monte, le cerveau va savoir que le sucre arrive et que le sucre monte. Ensuite, comme le sucre monte, le pancréas va réagir. Il va envoyer de l'insuline. Le cerveau va capter ce signal que l'insuline a augmenté. Donc, on sait que des sucres sont arrivés et que le corps est prêt à le gérer. L'insuline, c'est fait pour ça. Après, un peu plus bas, au niveau du duodénum, vous avez la cholécystokinine qui, elle, va être sécrétée. Bon, elle agit à d'autres niveaux, en particulier cérébral, mais là je vous parle du dialogue tube digestif. elle va être sécrétée en pourcentage des graisses qui arrivent, et en particulier des bonnes graisses. Elle va dire, oh, il y a des bonnes graisses qui passent. Vous savez, les oméga 3, les longues chaînes, etc. Donc, il y a des graisses qui passent. Et puis après la digestion, quand les aliments, les protidiques, sont réduits en acides aminés, ils vont être captés par la veine porte pour aller vers le foie, puisque c'est le foie qui récupère tout ça. Et dans la veine porte, il y a encore des petits récepteurs opioïdes qui vont dire « Oh, j'ai vu passer des protéines, j'ai vu passer des peptides protidiques ». Donc, le cerveau sait que tout est passé.
Donc, il y a ces éléments en cascade qui sont enclenchés. Et donc, à la fin, au fond, il y a un signal qui nous dit « Ça y est, on a assez mangé ». On a le stock nécessaire pour assurer nos besoins ?
À la fin, le cerveau va dire « c'était bien comme d'habitude ». Il y avait ce qu'il fallait en qualité, il y avait ce qu'il fallait en quantité, donc je suis content. Mais ça peut être beaucoup trop.
Oui.
Ça peut ne pas être assez, c'est très rare, mais ça peut être beaucoup trop. Donc ça, c'est ce qui se passe entre chaque repas. Et les hormones de la satisfaction vont... c'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense, sont des hormones qui ont une action relativement brève dans le corps, qui sont de l'ordre de 2, 3, 4 heures. Donc toutes les 4 heures, on a envie de recommencer. Ça explique bien des choses, ce circuit de la récompense. Donc ça, c'est le premier circuit, c'est le circuit court d'un repas à l'autre.
Mmh.
Et puis vous avez le circuit long, et là c'est beaucoup plus complexe, mais on le connaît bien, c'est le circuit de comment manger assez pour maintenir le corps dans l'état où il est. Et quand je dis le corps, c'est d'abord et avant tout les systèmes de réserve. Le foie veut être plein de glycogène, et le tissu graisseux ne veut surtout pas perdre une partie de ses stocks. Mmh. Donc le grand chef d'orchestre de tout ça, ce qui va régler, c'est le tissu graisseux lui-même. Le tissu graisseux envoie dans le sang absolument en permanence de la leptine, alors la même que tout à l'heure, mais là c'est tout le temps. Tout à l'heure je vous avais dit un éclair. Là c'est tout le temps, et il l'envoie en quantité strictement proportionnelle à son volume. Ça veut dire que si on maigrit, la leptine baisse, si on grossit, la leptine monte. Et à ce moment-là, le cerveau l'entend en disant « ça monte, diminuons les appels alimentaires, ça baisse, il faut les augmenter ».
Bon, horloge de précision,
d'après
ce que vous nous décrivez. Une question d'Élie sur Facebook, Benoît Chal, comment expliquer les envies alimentaires parfois très différentes des habituelles chez la femme enceinte ?
Oh là là, alors là, il y a de nombreuses explications, effectivement, ces envies alimentaires qui existent de façon plus marquée au cours du premier, début du deuxième trimestre de grossesse.
Mm-hmm.
Et une des explications est d'ordre hormonal, disant que la mise en place du placenta génère des demandes particulières au corps et modifie les besoins et donc aussi les motivations alimentaires de la femme enceinte. Et une autre théorie est plus évolutive et suggère que pendant cette période, la femme et surtout le fœtus seraient fixés encore de façon fragile dans le nid utérin.
Mmh.
Et donc, les capacités sensorielles et les préférences de la femme se modifieraient en particulier pour rejeter des aliments potentiellement abortifs. En particulier des aliments amers, des aliments liés à du café, à les fritures sont rejetées, les herbes à forte odeur, etc. Et donc, cette hypothèse de préservation du fœtus à travers le comportement maternel.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Marie Thirion. En finir également avec la peur de manquer pour retrouver un équilibre alimentaire. On vous en parler abondamment dans ce livre. Pourquoi j'ai faim ? C'est aux éditions Albin Michel, jusqu'aux folies des régimes. On en avait parlé avec vous d'ailleurs juste avant l'été. Merci également à vous, Benoît Chal, et aux équipes de France Bleu à Dijon qui nous ont permis de réaliser cette interview. Antoine Gomez était à la technique. Thierry Dupin a signé la programmation musicale de cette tête au carré. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Dans un instant, cette affaire sensible avec Fabrice Drouel et l'affaire Schuller. À demain.